Patricia Martin, votre invitée à présent, l'écrivain Régis Geoffrey pour son dernier livre « Papa » paru aux éditions du Seuil.
Bonjour Régis Geoffrey.
Bonjour Patricia Martin.
C'est donc un livre sur votre papa, il s'appelait Alfred. Alfred que vous dites aimer au bénéfice du doute parfois. À d'autres moments du livre vous écrivez « J'aurais préféré ne pas l'avoir connu ». Un père dont vous avez parfois eu honte, un père sourd et taiseux. Mais ce qui m'a frappé en vous lisant, souvent d'ailleurs je dois dire les larmes aux yeux, c'est que vous ne l'épargnez pas, vous ne vous épargnez pas. Ça signifie que dire une vérité, sa vérité, au fond, ça demande du courage et de la lucidité.
Oui, moi, ça m'a demandé un certain courage, mais surtout, je n'avais jamais pensé que j'arriverais à écrire un livre pareil. Hein. C'était vraiment les circonstances qui ont voulu ça quand j'ai aperçu mon père sur un documentaire arrêté par la Gestapo. C'est à ce moment-là que j'ai
Donc vous
fait...
étiez là, on peut expliquer, vous regardez un documentaire à la télévision.
Et je vois apparaître la maison de mon enfance.
À Marseille,
et je vois donc deux gestapistes qui sortaient avec un homme arrêté au milieu. Et peu à peu, je me suis aperçu que c'était mon père qui était arrêté, alors qu'il n'avait jamais été dit qu'il avait été résistant ou quoi que ce soit, et jamais il avait raconté qu'il avait été arrêté par la Gestapo. C'est à partir de là que j'ai commencé ce livre, mais je ne pensais pas du tout parler de mon père de cette façon si intime. Et ça m'a, ça m'a coûté, mais ça m'a beaucoup apporté. Puis il y avait une sorte de devoir d'en parler parce que je n'en avais jamais parlé, même pas à mes enfants qui ne l'avaient pas connu, mais je ne leur avais jamais parlé non plus.
Avec lui, vous n'avez pas beaucoup parlé non plus.
Pratiquement jamais, non, parce qu'il était donc sourd et puis il était bipolaire, donc il était sous Zaldol. C'est un médicament qui annihile un peu la personnalité, donc voilà. Et en fait, je dirais pas que je l'ai connu là, grâce à ce livre. Finalement, c'est pas un retour vers lui, c'est je suis allé vers lui dans ce livre.
Vous avez d'abord décidé de l'écrire sous forme de micro-fiction, donc deux tomes de micro-fiction, des histoires raccourcies, une sorte de nouvelles qui forment un roman. Et là, c'était un personnage, en quelque sorte, ce qui n'est pas le cas ici.
Non, là, c'est mon père. Alors, j'ai essayé de dire toute la vérité que je possédais sur lui, mais j'avais plein de manques, parce que j'ai voulu parler de sa jeunesse, j'ai voulu parler du voyage de noces de mes parents. J'avais des éléments, parce qu'il y avait même des éléments que j'avais connus, comme le piano. J'avais vu le piano partir à la salle des ventes.
Le piano, parce qu'il jouait du piano.
Parce qu'il jouait du piano, et ma mère l'avait vendu parce qu'il s'entendait plus jouer. C'était devenu un instrument de torture, donc ça c'est un élément dont je me souvenais. Et après, j'ai essayé de reconstituer donc ce père, et puis après avoir reconstitué, j'ai essayé à la fin de l'inventer, parce que j'en avais besoin. Ce père que je n'avais pas eu, j'en avais besoin aujourd'hui. Et en réinventant, finalement aujourd'hui, je n'ai plus le même père. Aujourd'hui, j'ai un père, j'ai un vrai père dans mon souvenir. Voilà, depuis l'écriture de ce livre.
Vous parliez du voyage de noces de vos parents, donc ça a été un mariage d'amour entre eux. Mariage un peu tardif.
Oui, un mariage tardif, oui.
Et ils se marient, donc ils partent en voyage de noces en Italie, sans beaucoup d'argent. Et vous écrivez « La modestie de ce voyage me bouleverse ».
Oui, il y a un côté bouleversant parce que effectivement c'est un voyage extrêmement modeste étant donné que à l'époque ça coûtait très cher les voyages, c'était pas comme aujourd'hui. Oui, ça a toujours quelque chose. Ça a quelque chose d'émouvant parce que c'est vos parents. Voilà. Alors on aurait préféré que ce soit le voyage de Nabucodonosor, ou un voyage somptuaire. Voilà.
Mais si ce père avait été, je dirais, plus lointain dans la parentèle, dans la parenté, est-ce que finalement il vous aurait laissé un meilleur souvenir ?
C'est-à-dire que un oncle fait toujours l'affaire, un cousin fait toujours l'affaire. C'est quand vous êtes très proche de quelqu'un que... Et puis finalement, un père avec qui vous n'avez aucun partage et qui est toujours là, c'est extrêmement étrange parce que vous avez des pères absents, vous avez des pères qui s'en vont, vous avez des pères qui sont violents. Et on est dans des schémas assez simples. Moi, j'étais dans un schéma assez complexe parce que j'étais avec un père qui n'était pas violent, qui était là, mais il était toujours là. Il était toujours à la maison et pourtant il était détaché de moi parce qu'il était dans son univers restreint.
Il était détaché de vous, mais il y a quelques beaux moments que vous racontez, dont une fête des mères.
Oui, ça c'est les souvenirs. Il était détaché de moi, il m'aimait, hein, c'est pas le problème. Oui, la fête des mères où il m'avait pris avec lui un matin, je vais avoir 5 ans, pour offrir un cadeau à ma mère pour la fête des mères. Et effectivement, j'ai vu après ma mère pleurer discrètement parce que le cadeau ne lui plaisait pas.
Et qu'il a fini à la poubelle d'ailleurs quelques temps plus tard.
Oui, il a mal fini et donc après il y a plus cette histoire-là. Quoi. Cette histoire-là a été terminée. C'était un des rares moments de complicité que j'ai eu avec lui. En effet.
Lorsque vous avez été aussi amené à être en tête-à-tête quelques jours, il s'occupe de vous, il vous prépare vos repas, il vous emmène vous baigner.
Et oui, malheureusement, c'est une journée extraordinaire que j'ai inventée de toutes pièces. Et cette journée extraordinaire que je sais aussi aujourd'hui avoir inventée, elle est en moi. Et quand je pense à mon père, je pense à cette journée, c'est-à-dire qu'elle arrive à faire partie de lui et faire partie de la mémoire que j'ai de lui, alors que je sais que c'est un souvenir parfaitement inventé et qui n'a jamais existé.
Vous le prenez un peu sous votre aile dans ce livre ?
Oui, parce qu'avec le temps, vous vous rapprochez de votre père. Moi, j'avais presque l'impression d'en être le père à mon tour, puisque d'une certaine façon, j'allais le chercher, j'avais l'impression de le tirer de l'eau. Voyez, et en même temps, vous avez cette double personnage parce que quand vous retournez vers votre enfance, vous avez l'enfant que vous avez été, et vous en êtes d'une certaine façon détaché, et vous lui tendez la main aussi autant que c'est possible, et c'est un peu abstrait, mais c'est l'impression que j'ai eue quand même.
Un enfant qui a eu une enfance lumineuse.
Ben oui, et puis de toute façon, il faut choisir cette option. Je pense qu'il faut choisir la lumière, il faut choisir, et finalement, on amplifie le passé de la façon dont on le perçoit. Et moi, j'ai décidé finalement de le percevoir de façon lumineuse parce qu'il y avait énormément de lumière. Et puis, je fais partie des enfants qui ont été aimés par leurs deux parents toute leur vie. Et donc, je pense que l'humanité est quand même séparée entre ceux qui ont été aimés par leurs parents et ceux qui ne l'ont pas été.
À qui s'adresse la question, Régis Geoffrey, vaut-tu la peine d'un livre ?
Ça s'adresse à lui. Ça s'adresse à lui au début. Et surtout, je suis presque épouvanté d'écrire sur lui. Pour moi, c'était un tabou absolu d'en parler, en fait. Mais total et absolu. Et je suis arrivé à le briser et ça a été très très étonnant pour moi.
Merci Régis Geoffrey. Papa est donc publié aux éditions du Seuil. Merci.
Merci.